of toys and ice cream stands. All the rides are 50 cents, so take those ladies, all you gents. Haven't had this much fun anywhere. To go back home, I just don't care. Me leave this place, no, I don't dare. Hobble, bobble, driven, tilt the world and wonder wheel are all those things that you can feel. Take your time.
Aujourd'hui, le principe, c'est d'aider un peu les jeunes à émerger. Donc maintenant, dans les conférences, je viens toujours avec un jeune qui, lui, a bien préparé, puisqu'il est encore à l'âge du travail. Et moi, je suis à l'âge où je fais travailler les autres, comme vous le savez. Je pense que tu fais référence aux questions des condamnations et de la prison. C'est simple, il y a quelques années... j'ai expliqué à mon ex-femme qu'il valait mieux qu'on divorce et que ma fille ne porte pas mon nom, parce que je savais que, comme je pense que je suis à peu près cohérent dans mes analyses, je savais que si j'allais jusqu'au bout du combat qui était le mien, j'aurais ce genre de problème qui se présenterait à un moment donné, c'est-à-dire ce qu'on appelle la loi du silence, l'édredon, après la diabolisation, après les agressions successives, puisque j'en ai quand même subi 5, en commando, cagoulé, avec marteau, acide et des trucs comme ça. Il y a des étapes, on monte en grade. Après les procès à répétition, je suis à plus de 65 procès depuis 2004, 400 000 euros de condamnation, 50 prisons avec sursis, qui peuvent tomber du jour au lendemain et se convertir en prison ferme. Je savais bien, effectivement, que si je continuais à tenir tête, puisqu'en fait, c'est ce que je fais, je tiens tête à certains pouvoirs que je décris et donc que je dénonce, ça m'amènerait peut-être à la prison. Et ce que je me suis toujours dit, c'est que ce qui est très étonnant, c'est que des gens qui prétendent être des révolutionnaires ou des politiques engagés, on peut penser par exemple à Besancenot, prétendent à la fois combattre le capitalisme bourgeois frontalement et font la couverture de gala et n'ont jamais eu le moindre problème. Donc ce qui serait plutôt incohérent, c'est que je rencontre aucun problème. À la limite, cette chasse à l'homme là que je subis, qui est quand même dans un cadre démocratique, hein, faut pas exagérer. Je veux dire, je suis convoqué à la police, chez les juges d'instruction, il y a des procès, je suis condamné, mais ça respecte quand même certaines règles. Je suis quand même vivant. Je pense qu'il y a certains pays où je serais déjà dans un coffre de bagnole et enterré dans la forêt. Donc on est quand même en France, donc il faut quand même non plus pas mettre la barre trop haut. Mais je vous dis, il serait étrange que j'ai pas d'ennuis compte tenu de ce que je raconte, et je crois que les ennuis que je rencontre démontrent que ce que je dis fait mouche d'une certaine manière, parce que comme je le dis, quand on attaque le pouvoir, il se défend. Voilà. Et ce sur quoi plutôt il faut s'étonner, c'est des gens qui prétendent combattre le système et qui ne rencontrent aucun problème. Alors évidemment, on peut parler de Besancenot et d'autres. Et donc, je vous dis, tout ça est cohérent. Et donc, moi, ce qui me déprime, c'est quand je ne comprends pas ou que je sens que les choses sont incompréhensibles. D'ailleurs, c'est la définition de ce qu'on appelle l'angoisse. L'angoisse, c'est quand on est bloqué et qu'on ne comprend pas et qu'on ne sait pas quoi faire. Moi, je suis dans une situation qui est assez objective et assez cohérente. Et les gens que j'ai beaucoup admirés dans ma vie, que ce soit les politiques ou même d'autres aventuriers, sont souvent passés par la prison. Et en fait, je pense qu'il ne faut pas avoir... Il ne faut pas avoir honte de ça. Mon père en a fait. J'ai préparé ma fille déjà à l'idée que je serais un jour incarcéré et qu'on lui en parlerait à l'école. J'ai fait beaucoup de choses dans ma vie et je reconnais que ça, je n'ai pas encore fait. Donc ça m'intéresse d'un point de vue sociologique. J'ai été au Parti communiste, j'ai été au Front national, j'ai fait du sport. Et c'est vrai, la prison, j'ai 61 ans cette année, même si je ne les fais pas, merci. Je n'ai pas encore fait de prison. Je n'ai jamais dépassé la garde à vue. Et donc... ça m'intéresse. En plus, je pense que j'ai passé l'âge de me faire coincer dans les douches. C'est quand même un truc pour les primo-délinquants. Je suis serein sur cette question. Et d'autant plus que je vais finir là-dessus pour ne pas faire trop long, qu'il y a du soutien. Vous êtes là. Je vous dis, j'ai un témoin ici. Hier, j'allais prendre le train. Je vois un type qui vient me croiser. C'était le chauffeur de la locomotive du TGV. Il m'a dit « Bonjour, monsieur Soral. C'est un honneur pour moi de conduire le TGV ». Après, je vais au bar, je tombe sur le contrôleur qui me dit « Ah, monsieur Soral, quel plaisir, malheureusement le bar, pour une cause de grève, est fermé ». Il y avait une petite grève au bar. Donc j'avais le chauffeur du train et le contrôleur qui est des sympathisants. Après, quand on est sorti, on avait un grand gars d'origine immigrée qui avait dit qu'est-ce que vous faites, il y a une conférence. Ah ben, je viendrai, je suis déjà venu. Et le type était prof en plus, hein, ouais. Prof de biologie ou je sais pas quoi.
Prof de biologie.
Ouais. Issu de l'immigration. Donc, tout à l'heure, en sortant de l'hôtel, il y avait le pompier de service qui est venu me saluer aussi. Ah, vous étiez là, etc. Donc là, il y a quand même des choses de très rassurant. C'est qu'en fait, la France profonde, hein, la vraie France, la France du travail, me connaît, sait à peu près qui je suis et ne croit pas à la diabolisation des médias. Et ça, c'est quand même le truc qui me donne le courage, parce qu'effectivement, si ce soir-là, il n'y avait personne, ça serait difficile pour moi de continuer. Et j'ai connu une époque, l'époque du début, où c'était très difficile, justement, parce qu'il n'y avait pas grand monde, beaucoup de violence, etc. Et maintenant, je vous dis, c'est presque agréable. Hein. Et si je vais en prison, je sais que les gens dehors me soutiendront, je sais que ça fera avancer les choses. Donc, je suis, je vous le dis, très serein sur cette question, et je vais finir là-dessus, grâce à vous et à votre présence, bien évidemment. Et je vous en remercie. Voilà. Et comme je le dis, pour relativiser les choses, on est en France. Hein. Je veux dire, je ne vais pas être incarcéré dans un pays d'Asie ou de Sud-Américain. Hein. Prison au Mexique, ce serait peut-être plus angoissant. Mais on est quand même en France, donc je pense que ça sera à peu près viable. Surtout qu'ils viennent de finir de refaire la santé. Donc moi, ce que j'espère, c'est être incarcéré à la santé. Il y a un coin VIP. J'ai regardé un documentaire, c'est tout neuf. Et pourquoi pas ? Voilà, donc maintenant je vais passer la parole à mon camarade Pierre Debrague, qui lui a bien préparé la conférence, sachant que quand il aura fini de parler, on aura abordé à peu près tous les sujets, donc j'aurai plus qu'à ponctuer de 2-3 petites remarques, et puis je pense qu'après on passera assez vite aux questions-réponses, parce que les gens qui sont là aiment bien intervenir, je crois, et puis après ça nous amènera peut-être aux signatures,
oui, pour vous.
Afin de faire un peu de librairie, voilà. Donc Pierre... Pierre Debrague, dit Braguette, quand même.
Pour les intimes.
Pour les intimes. Je ne sais pas pourquoi, ça nous a été imposé à tous. Ce n'est même pas de ta propre volonté. Je te laisse la parole sur ce sujet que tu as toi-même choisi, qui est mensonge et
destruction,
et destruction du sens. C'est du haut niveau.
Oui, alors je précise que Pierre Debrague, c'est un pseudo. Hein. J'ai voulu me donner une particule pour avoir un côté un petit peu plus noble, un peu plus chevaleresque. Mais mes origines sociales sont plutôt classe laborieuse. Bref, alors j'ai proposé effectivement cette thématique, mensonge et destruction du sens, parce que je voulais répondre à une question lancinante, une question que j'entends très souvent, qui est quand même assez présente dans notre société, c'est pourquoi, et surtout dans nos milieux, c'est pourquoi les gens ne se révoltent pas. Voilà, c'est quelque chose qu'on entend très souvent. Pourquoi les gens ne se révoltent pas ? Pourquoi les gens ne se révoltent pas plus ? Alors évidemment, je suis obligé, le phénomène majeur de ces derniers mois, les gilets jaunes. Alors les gilets jaunes ont donné matière à énormément de prospectives, mais ce qui me paraît l'enjeu majeur, prioritaire de ce phénomène, et ce que le système a éminemment combattu, c'est ce que nous a présenté notre camarade, c'est la jonction naturelle qu'il devrait y avoir entre cette colère populaire des gilets jaunes et l'analyse sorralienne, l'analyse d'égalité et réconciliation des différentes strates de la domination oligarchique. Alain, par son combat, par ses sacrifices, a dévoilé depuis des années les véritables réseaux de pouvoir à l'œuvre en France et dans le monde, avec toutes les nuances que cela comporte. Et tout a été fait ces derniers mois pour empêcher, pour contenir cette jonction révolutionnaire, effective, pérenne, qui perdurerait, j'ai envie de dire naturelle, hein, française, qui perdurerait dans le temps. Et nous avons sur ER décrypté, si vous suivez, hein, nous avons décrypté au jour le jour, les impasses, les arnaques relatives qui étaient le RIC, hein, dont on n'entend plus du tout parler, c'est complètement passé de mode. La 6e République avec Mélenchon, ça c'est pareil, c'est un peu passé sous le boisseau. Le général de Villiers fut un temps, si vous vous souvenez, c'était vers l'acte 3, l'acte 4, on n'en entend plus du tout parler. Et tous les représentants de ce qu'on appelle nous la nouvelle opposition contrôlée, les Branco, les Ruffin, les Lordon, qu'est-ce qu'il y a d'autre, Lapierre. Hein, on peut le mettre dedans, Vincent Lapierre, Denis Robert, etc. Parce qu'effectivement, tout a été fait pour purger le mouvement originel des Gilets jaunes de sa puissance critique sérieuse et de ses potentialités constructrices et réellement insoumises. Réellement insoumises. C'est pour cela qu'on a vu, comme nous on l'avait annoncé, comme on l'avait dénoncé, une gauchisation du mouvement. Hein, ça, je vous apprends rien. On a vu dans les Gilets jaunes le retour des antifas, des syndicats, des casseurs, les intellos illégitimes, qui sont venus interdire, qui sont venus bloquer, et là on rentre dans le thème de la conférence, la réappropriation du sens. C'est-à-dire que la réappropriation du sens qui était en train de se mettre en place, le retour, ce que j'appelle le retour de manivelle dialectique, qui fait qu'après des années de purgatoire, le peuple français, le peuple du travail, reprenait la parole, alors que, encore une fois, depuis très longtemps, tout avait été fait pour lui retirer la parole, pour lui retirer l'envie même de parler, pour lui retirer la légitimité de parler, pour lui retirer l'intérêt de parler. Alors effectivement, on sort, vous le savez, de décennies d'humiliation, de culpabilisation, de diabolisation, de désincarnation, puisque le travailleur français, c'est-à-dire celui qui assume le principe de production, hein, hors élite parasitaire ou, élite, enfin, ou classe inférieure, qui sont effectivement fondées sur le parasitisme ou l'usure pour le haut. Donc le travailleur français, principalement de souche et dans une certaine mesure immigré, a dû, depuis des décennies, fermer sa gueule, disparaître, laisser sa place à tous les niveaux. Hein. On a eu remplacement ethnique par le bas, communautaire par le haut, avec tous les agents qu'on avait évidemment identifiés, hein, les élites médiatiques, politiques, les minorités agissantes, les collabos, que sont les bobos, voilà, les phénomènes de gentrification, etc., qui ont participé à ce que, alors je vais utiliser un mot un petit peu savant, à cette expropriation praxéologique, c'est-à-dire qui ont privé le peuple de la légitimité de sa praxis. Alors de sa praxis, c'est, pour le définir succinctement, c'est la production au sens large, la production historique du peuple, son rapport à l'histoire, son rapport au travail et à la civilisation. Et le peuple français, le travailleur français générique a dû accepter tout ça et a dû accepter en plus et subir la dégradation anthropologique qui en découlait et donc en subir les conséquences. À tel point que dans l'inconscient populaire ultra-contemporain, donc je parle vraiment de nos dernières années, un Français, je vais le dire, blanc, qui n'est pas soumis totalement à tous les codes de la société de consommation, ou qui n'est pas, je vais le dire, une semi-pédale ou un baptou fragile, comme on dit, parce que c'est ça, les gens hallucinent complet. Les gens hallucinent, puisqu'ils ont l'impression que que le blanc qui se tient bien, qui est viril, et qui incarne quelque chose, et des valeurs françaises dont on parle régulièrement, on a l'impression que c'est devenu rare et devenu marginal, parce que, évidemment, ce n'est plus vu à la télé, et on n'en croise même plus dans les centres-villes. Alors, il y a plusieurs explications. Déjà parce qu'effectivement on a viré ces gens-là, enfin nous, et aussi parce que les gens bien sont intrinsèquement discrets, hein, il faut le dire. Et donc petit exemple, on entend souvent dans les relations hommes-femmes, effectivement, on entend dire « Ah, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus d'hommes ». Alors bon, il y a une part d'hypocrisie et de désir caché propre à la femme dans cette assertion, mais ça représente quelque chose. Et en même temps, c'est pas tout à fait vrai. Puisqu'ils ont été mis de côté, mais ils sont toujours là. En plus, on peut l'expliquer et on va donner des solutions. Ça, c'est le travail d'Alain. Donc, je voudrais revenir dans cette conférence sur cette entreprise de destruction, ce fameux suicide français dont a parlé Éric Zemmour, qui était en fait un assassinat déguisé. Cette destruction du modèle universaliste français, ce fameux logiciel helléno-chrétien, qui a fait de la France, je le rappelle quand même, hein, qu'on soit fier, un pays phare. Pendant des siècles, au niveau des arts, des romans, de la philosophie, de l'artisanat, qui fait que la France a un énorme prestige et une énorme capacité d'insoumission, mais qui fait aussi que la France est un pays, pour les tenants de l'oligarchie, un pays à contrôler, un pays à abattre relativement et un pays à contrôler, et j'ai envie de dire même un pays dont les tenants de l'oligarchie veulent jouir, parce que la France est généreuse, la France est avantageuse, hein, on a quand même effectivement, les plus beaux paysages certainement du monde, les plus belles filles, etc. Et ces gens-là aiment bien se gaver. Alors, je ne vais pas refaire une historiographie sur 2000 ans, hein, sur comment on a tué, comment on a tué la métaphysique, la mythologie, le symbolisme, comment on a neutralisé la conscience religieuse et la question du sens à travers les siècles. Je pourrais vous renvoyer vers les ouvrages d'Evola qu'on vient de rééditer chez Contre-Culture. Mais je voudrais me concentrer sur une accélération qu'on a subie en France, vous remémorez certaines choses, depuis l'après-guerre. Depuis l'après-guerre, puisque j'ai constaté, je constate que nous avons déjà vécu cette séquence de gauchisation que les gilets jaunes revivent, puisque après-guerre, nous étions dans une période, dans un contexte de domination intellectuelle et politique du PCF, du Parti communiste français, en filiation après avec le CNR, qui représentait quand même une certaine idée de la France. Et tout de suite, ce phénomène de gauchisation s'est mis en place, plusieurs phases. La phase que je vais appeler la phase Sartre, suivie de la phase mai 68, avec Cohn-Bendit, Goupil. Je fais remarquer qu'ils sont toujours là. Hein. Et la phase qu'on va appeler de la French Theory, hein, les Derrida, les Deleuze, etc. Cette séquence de gauchisation sur à peu près 2-3 décennies a contribué à nier le travailleur français, à nier le prolétariat, à nier le peuple, à nier la question sociale. Donc petit à petit, sont devenues majoritaires, prioritaires, des philosophies, des idées qui ont évacué la question de la responsabilité morale. Voilà, c'est un concept important à retenir aujourd'hui, c'est la question de la responsabilité morale. Et donc cette question a été évacuée par ces philosophies-là. Et le questionnement même du sens a été évacué, puisqu'il n'était plus question dans ces années-là de s'interroger sur le sens de la vie, sur le sens des choses. Alors, ces philosophies ne sont pas tombées du ciel, elles se sont imposées parce qu'elles accompagnaient parfaitement le néo-capitalisme de la société de consommation qui se mettait en place après le plan Marshall. Et là, je vous encourage à vous rapporter aux travaux de Michel Kluskar, hein, qui a fait un travail exceptionnel sur ces sujets. Donc le système, ce qu'on appelle le système, à ce moment-là, pour fonctionner, s'est appuyé sur ces penseurs. Alors je vais vous faire je vous les énumère brièvement. Ces auteurs, donc, vous les connaissez. Pour la période pré-mai 68, donc évidemment emblématique, Jean-Paul Sartre. Alors Sartre, de son vrai nom, Schweitzer, qui a changé, ça faisait certainement trop allemand, issu d'une famille bourgeoise, protestante, libérale, allemande. La philosophie de Sartre, vous connaissez, hein, c'est quand même dans la conscience populaire, c'est l'existentialisme, c'est-à-dire qu'on peut résumer par l'existence précède l'essence. Et si je veux aller très vite, c'est une philosophie qui absolutise la subjectivité. C'est-à-dire la subjectivité, c'est le point de vue de l'individu. Mais c'est une philosophie qui absolutise une subjectivité sans détermination historique ou méta-historique, sans référence culturelle. Et donc c'est une subjectivité totalement abstraite. Donc ça nous donne un monde, le monde de Sartre nous donne un monde d'individus quand même très creux, très vide, sans vraiment, sans sens, justement. Sartre qui a influencé Deleuze. Deleuze, famille de bourgeois, c'est intéressant, hein, famille de bourgeois bien de droite. Hein, son père était croix de feu, je crois. Hein, famille de bourgeois bien de droite. Deleuze qui, lui, prétend prolonger Freud. Freud, on pourrait en parler. Hein. Donc Deleuze, lui, veut laisser libre cours à l'inconscient. Et donc sa philosophie revient à déculpabiliser toutes les transgressions. Je pense que vous comprenez un peu le mécanisme. Je précise que Deleuze finira par se suicider. Influencé également par Freud, Derrida. Derrida, c'est un juif d'Algérie, devenu français là, certainement à la faveur du décret Crémieux. Donc Derrida, c'est le maître de la déconstruction. Philosophie très, enfin pensée très matérialiste, hein, il délégitime l'esprit sur lequel il fait primer la matière et la loi écrite plutôt que le logos. Voilà, on met de côté un petit peu la logique. Foucault, bourgeois également, homosexuel, hein, qui mourra du sida. Alors Foucault, vous le savez certainement, il a travaillé sur l'institution, l'institutionnaliser. C'est-à-dire que sa philosophie revient à nier, à une négation de l'institutionnaliser, puisqu'il réduit l'institution à un contrôle totalitaire. Toujours cette question d'enfermement du sujet. C'est-à-dire qu'il nie la fonction historique et civilisationnelle que peut représenter l'institution. Lacan. Lacan, intéressant, jeunesse, famille de droite, hein, famille bien de droite, catho, anti-républicain, jeunesse maurassienne, puis qui finira par se marier à une actrice juive, et qui prétendait, Lacan, revenir à Freud. C'était le retour à Freud, avec pas mal de concepts alambiqués, hein, vous connaissez très bien, vous pourrez peut-être nous en parler. Althusser, lui, prétendait revenir à Marx. Il y en a qui veulent revenir à Freud. Althusser prétendait le retour à Marx. Donc c'est la fameuse coupure épistémologique entre le jeune et le vieux Marx. Et c'est une réduction à ce qu'on appelle le structuralisme antidialectique. Hein, c'est-à-dire on purge effectivement le côté historiciste du marxiste dans la vision d'Althusser. Althusser, pareil, jeunesse catho, royaliste. Il mourra, c'est intéressant, mourra à l'HP après avoir tué sa femme juive, Hélène Rittmann. Bref, tout ça, ce sont des philosophies que j'ai appelées déresponsabilisantes, puisqu'elles évacuent le sujet conscient, le sujet volontaire, elles mettent de côté la question du sens de l'histoire, et effectivement, elles nient l'importance du symbole et de l'institution, et donc elles empêchent la praxis dont je vous ai parlé, c'est-à-dire le travailleur qui a conscience de son rapport à l'histoire, justement. Et ce sont des philosophies qui essentialisent la subjectivité. Donc ça, on pourrait le résumer, on va appeler ça le moment post-structuraliste, hein, je développerai peut-être dans les questions de réponse tout à l'heure, ce sont les auteurs de la French Theory, qui se sont accompagnés au point de vue international, notamment en Allemagne et aux États-Unis, par ce qu'on appelle l'école de Francfort. C'est-à-dire qu'il y avait une vague au même moment dans tout le monde occidental de l'économie de marché. Alors l'école de Francfort, je ne développe pas, mais bon, Marcuse, Fromm, ce sont des freudo-marxistes qui ont beaucoup travaillé à l'émergence de ce qu'on appelle les minorités, justement. Et cette vague a purgé le marxisme, qui était dominant à cette époque, de sa dimension dialectique. Un habile tour de passe-passe qui a accompagné les 30 glorieuses, donc, avec la société de consommation, la révolution sexuelle, le libéralisme libertaire, pour faire passer cette espèce d'arnaque. En gros, c'était du pain et des jeux, quoi. C'était du cul et de la bouffe, des biens de consommation, et on met de côté tout le reste, et en gros, fermez-vous les travailleurs, fermez-la. Donc, ce qu'on peut appeler cette nouvelle vague a permis de ne plus poser la question, je pense, qui est fondamentale, qui est la question du procès de production. C'est une question qui est devenue à ce moment-là ringarde, vulgaire, beauf. C'est le début du beauf. En fait, cette période, c'est le début du beauf. C'est le début du facho aussi. Le prolétaire devenait le beauf. Et le révolutionnaire, le nouveau révolutionnaire, c'était le consommateur de classe moyenne, libertaire, le dandy, et la classe ouvrière, elle, devenait réac. Puisqu'elle était même accusée, c'est là où c'est fort, elle était même accusée de s'embourgeoiser, puisqu'elle avait accès aux premiers biens de consommation primaire. Alors que, là c'est du Kluska que je vous fais, alors que les nouvelles classes, elles, accédaient à ce que Kluska appelle la consommation libidinale, ludique et marginale, c'est-à-dire la drogue, le rock, la pilule, l'avortement, aujourd'hui le mariage gay, etc. Donc c'est cette espèce d'arnaque, cette idéologie hypocrite du jouir sans produire qui était en vogue dans les années 60-70. Effectivement, c'est une arnaque, puisque pour jouir, il faut que d'autres produisent. Donc vous comprenez pourquoi tout est fait encore pour éviter la question du procès de production, et aujourd'hui on est toujours dans cette problématique-là. Qu'est-ce que c'est que le féminisme, les LGBT, l'écologie? Tout ça, ce sont des questions qui sont mises en avant pour interdire cette question de la réalité de la question sociale. Sauf que dans les années 80, parce que là je vous ai parlé des années 60-70, dans les années 80, nous sommes rentrés dans les 30 piteuses. 30 piteuses, c'est la crise, l'austérité, le tournant de la rigueur. Et là, il faut vraiment commencer pour le système à contenir la réaction populaire. Donc on rentre vraiment dans la phase de chasse aux fachos, la chasse aux racistes. C'est là que SOS Racisme émerge, évidemment. C'est là qu'on commence vraiment à diaboliser le Front National, qui est quand même un mouvement poujadiste à l'origine, c'est-à-dire un mouvement de révolte contre l'oppression fiscale, des petits travailleurs, des artisans contre l'oppression fiscale. Et si vous voulez, le système... Et c'est là où je pense que c'est intéressant. Le système a voulu détourner cette espèce de retour inévitable de la question du sens, qui est intrinsèque à la classe ouvrière et au peuple, parce que c'est l'éternel, ce qu'on appelle l'éternel retour du concret, la nature ayant horreur du vide. Et je rappelle que pendant ce temps, évidemment, les mêmes parasites dont on parle continuent à se gaver sur le dos de la France. Et le système a voulu donc réinjecter du sens, parce que le peuple en réclamait, mais le système a proposé ses propres alternatives. Il a remis du sens petit à petit, mais à sa propre sauce. Donc dans les années 70-80, devant la revendication légitime de réappropriation du sens par le peuple, l'ingénierie oligarchique nous a proposé, j'ai sélectionné deux auteurs emblématiques, vous les connaissez certainement, Levinas et Hannah Arendt. Ce sont les philosophes favoris d'Alain Finkielkraut et de Yann Moix. Il les cite en permanence. Alors, petit descriptif. Levinas, juif lituanien, qui lui, effectivement, a proposé de réhabiliter l'élite, hein, après deux décennies de négation de la responsabilité morale et de la morale, justement, mais réhabiliter l'éthique en s'appuyant sur la première loi humaine, l'Ancien Testament, la loi révélée à Moïse. C'est, pour Levinas, le moyen de remettre en avant la responsabilité, mais une responsabilité uniquement physique, pour empêcher ce qu'il appelle la barbarie, qui serait la sauvagerie, qui serait intrinsèque à la subjectivité, justement, si elle n'était pas contenue. En gros, si on ne tient pas les hommes, on va appeler ça les hommes, ça donnera la Shoah. Hannah Arendt, voilà, c'est sa philosophie. Hannah Arendt, elle, une juive allemande qui se définit intime d'Heidegger, qui se définit elle-même chassée par les nazis, militante juive de combat, hein, Hannah Arendt, elle s'interroge depuis les États-Unis sur les totalitarismes. Alors sa définition du totalitarisme, pour elle, elle parle de Staline et d'Hitler, hein, tient en trois mots: camp de concentration. Camp de concentration, pour elle, c'est ce qui définit le totalitarisme. Donc pour Hannah Arendt, il faut effectivement remettre du sens, il faut remettre de l'autorité dans les sociétés modernes pour éviter les totalitarismes, mais pour elle, il n'y a pas de sens de l'histoire, il n'y a pas de continuité historique, il n'y a que des moments qui dépendent des actes du pouvoir en place à ces moments. Donc justement, pour elle, la solution, c'est de confier le pouvoir à la bonne personne au bon moment. Sous-entendu, une élite. J'imagine que dans sa vision, c'est une élite pas élue, non élue démocratiquement, puisque Hitler est arrivé au pouvoir démocratiquement, une élite non révolutionnaire. Je pense qu'on peut très bien comprendre qu'elle a posé les préceptes de la technocratie de l'Union européenne et de la gouvernance globale, notamment. Je vous ai parlé brièvement des années 70-80. Nous arrivons dans les années 90-2000. Les années 90-2000, les années de la mondialisation. La pensée se mondialise, s'américanise. Ce sont les années du capitalisme financier, spéculatif. Et ce sont aussi les années de la fin de la guerre froide et le début de la guerre chaude au Proche-Orient. Alors là, pareil, face à cette demande de sens, le système va nous imposer deux penseurs majeurs que vous connaissez, qui sont Fukuyama et Huntington. Alors Fukuyama, penseur américain d'origine japonaise, influencé par Derrida, hein, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui a une vision messianiste de l'histoire, qui effectivement remet du sens. Oui, pour Fukuyama, l'histoire a un sens, mais ce sens, c'est l'avènement planétaire de la démocratie libérale. Donc là, on est totalement dans la vision de la gouvernance globale, du gouvernement mondial. On voit la filiation avec Hannah Arendt. Donc c'est ce qu'on appelle la fin de l'histoire, c'est ça son ouvrage. Huntington, dans le même temps, propose lui une autre vision et une autre réhabilitation du sens. C'est ce qu'on appelle la vision du choc des civilisations. C'est Samuel Huntington qui promulgue cette idéologie. En fait, il vulgarise les thèses de Bernard Lewis, un juif américain qui avait travaillé sur la rage, je cite, la rage musulmane, un tout petit peu fin des années 90. Donc dans la vision du choc des civilisations, oui, on réhabilite le sens de l'histoire, l'histoire a un sens, mais c'est l'affrontement du bien contre le mal, c'est la guerre sainte. Et là, on voit la filiation avec Levinas. Deux pensées qu'on croit opposées, mais qui sont finalement complémentaires, puisque l'impérialisme atlanto-sioniste combat en permanence l'axe du mal, le fameux axe du mal, pour défendre le jardin d'Éden du mondialisme libéral, justement, ces fameux acquis. Deux réseaux qu'il ne faut pas mettre de côté, puisqu'ils sont encore à l'œuvre aujourd'hui. Ce sont les réseaux néolibéraux et les réseaux néoconservateurs, si vous avez bien identifié. D'un côté, donc, les euromondialistes financiers banquiers, et de l'autre, les atlanto-sionistes, qui sont plutôt sur la question militaire et sur la géopolitique. Donc d'un côté, on a le réseau Macron, Attali, Minc, que j'ai appelé New York, Paris, Tel Aviv. Et de l'autre côté, on a le réseau donc atlanto-sioniste, CRIF, Valls, hein, déjà démonétisé, Sarkozy, Zemmour, Bush, Netanyahou, voilà, que moi j'ai appelé Pentagone, Paris, Jérusalem. Avec, donc ces deux réseaux sont à l'œuvre aujourd'hui, ils ont parfois des agendas contradictoires, il y a des frictions, il y a même des guerres, hein, c'est ce qui s'est passé ces derniers temps, on pourra en parler peut-être avec l'affaire Benalla, etc., le fait que certains ont voulu faire pression et peut-être faire sauter Macron, mais si vous voulez, ces réseaux agissent en fonction des rapports de force qui sont actuellement internationaux. Et c'est pour ça que ce qui se passe en ce moment avec Trump, avec Poutine, avec le Brexit, avec la question du populisme à la question, au niveau international, sont des choses qui peuvent faire bouger les choses et qui sont intéressantes. Alors je continue ma petite prospective, hein, je m'amuse un petit peu, je passe aux années 2010-2020, elles nous concernent. Les années dans le paradigme que je vous ai décrit, quelles sont les voies de garage et quelles sont les tentatives de récupération du réveil inéluctable du sens de plus en plus pressant, hein, on le voit avec les gilets jaunes, de réappropriation du sens souhaité par le peuple. Quelles alternatives nous offre le système pour continuer à nous couper de nous-mêmes? Dans les années 2010-2020, le système vous propose deux options. Ne plus être un jouisseur des années 70, non, ça c'est ringard. Vous pouvez être un winner progressiste, un trader gay-friendly, féministe, pro-migrant, écolo. Vous avez compris, hein, c'est la vision assez macronienne des choses. Et dans cette option-là, dans cette optique-là, effectivement, il y a un retour de la responsabilité morale. Donc vous devez vous satisfaire de ce retour du sens, puisqu'il y a une responsabilité morale planétaire. Qu'est-ce que c'est que la question des migrants? Qu'est-ce que c'est que la question du réchauffement climatique? Voilà, ce sont des responsabilités morales planétaires, mais quand même très, très, très abstraites. Et il y a effectivement un retour du sens de l'histoire. On vous propose un sens de l'histoire, calmez-vous. Le sens de l'histoire, c'est la compétition libérale, le règne du marché, voilà, il faut exister, écraser l'autre, et être le plus gros requin en termes économiques. Si cette option ne vous intéresse pas, attention, le système vous propose l'opposition à ce modèle. L'opposition à ce modèle, soyez un néo-conservateur, un néo-viriliste, soyez un néo-racialiste, renouez avec le sens biblique de l'histoire, renouez avec les valeurs judéo-chrétiennes. Et ça, évidemment, c'est l'arnaque du national-sionisme dont on parle depuis un an à peu près. Donc ça, c'est la ligne Zemmour, effectivement, qui réhabilite une responsabilité morale tribale, communautaire, raciale. Mais effectivement, c'est logique, tout ça est bien pensé, puisque après plusieurs décennies, cette espèce de trou noir anti-virilité, anti-tradition, on a plein de jeunes hommes qui ont cette volonté d'exister et qui veulent pas forcément être des jouisseurs cosmopolites gays, donc forcément on doit leur proposer cette alternative. Donc en gros, dans la période, et je suis assez triste de vous raconter ça, mais de faire ce constat-là, mais en gros, dans la période actuelle, soit vous êtes le gigolo d'Attali, soit vous êtes le petit soldat d'Éric Zemmour. Hein, et de Goldnadel et de Finkielkraut, hein, puisque ce sont eux, je rappelle, dans les médias, ce sont eux, dans la culture, soi-disant française, ce sont eux les soi-disant défenseurs de la cause blanche, catholique et de la virilité française. Ce sont eux qui sont censés incarner ça. Zemmour, Goldnadel, Finkielkraut, pour que les choses soient claires. Donc on pourrait s'amuser, hein, j'ai noté, c'est qu'au bout du bout de cette espèce de magma délirant, on se retrouve avec des choses complètement... les bras m'en tombent, puisque maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un débat télé? C'est Zemmour qui débat avec Maurice Safran, comme il y a deux jours, c'est-à-dire un juif de droite contre un juif de gauche, qui se pose la question de savoir s'ils doivent continuer avec Macron ou s'ils doivent envoyer Marion Maréchal Le Pen et Sarkozy, ou, comme on l'a vu dans les débats d'avant les élections européennes, des militants du Rassemblement National qui sont homosexuels, qui supplient des juifs comme Georges Marc Benamou, mondialiste, de bien vouloir les laisser exister et exister électoralement et les laisser peut-être gérer la France un jour. Voilà, donc constat assez triste, malheureusement, que je pense assez réel. Un petit peu de prospective aussi, on a remarqué depuis un an que les euromondialistes préparent aussi leur récupération du sens, puisque avec la crise, le populisme, la crise sociale qui va continuer, les euromondialistes nous ont proposé de nouveaux concepts comme le national-globalisme. National-globalisme mis en avant par Attali, c'est-à-dire en gros continuer la prédation bancaire, mais en lâchant un petit peu de lest. En sacrifiant quelques sous-fifres, donc certainement la bourgeoisie entrepreneuriale française, hein, qui sera lâchée de la montgolfière, et peut-être accessoirement remettre des gestionnaires un peu nationaux, certainement pour payer les pots cassés et devoir gérer la crise et la prendre sur leurs épaules. Donc on en est toujours là, dans ces brimades, dans ces manipulations, c'est pour ça que cette conférence s'appelle « Mensonges et destruction du sens », dans cette répression à l'encontre du peuple pour empêcher qu'il reconnecte avec lui-même, avec ce qu'il constitue, c'est-à-dire la philosophie française, l'universalisme, une certaine idée de la liberté d'expression, la question sociale. Et on en est toujours là, et encore une fois, je le redis, j'ai l'impression qu'on est un peu dans une phase bloquée, assez sclérosée. On voit qu'avec les élections européennes, bah, il ne s'est rien passé, finalement, parce que les réseaux de pouvoir en France sont essentiellement juifs, francs-maçons et homosexuels, bloquent totalement, vérolent totalement le levier de pouvoir. Et voilà aussi pourquoi le système a très peur de ce que représente Alain Soral, de ce que représente ER. Le système a très peur de nous parce que nous dévoilons toutes ces manipulations, parce que nous donnons les outils de compréhension du sens français. Là, c'est le travail, je pense, de contre-culture, ce travail de régénération du sens en permanence. Et je rappelle que le sens est le préalable fondamental à l'héroïsme. Et ça, c'est une vraie question, puisque notre époque a besoin de héros, notre époque a besoin de mythologie, et en donnant du sens comme on le fait, comme on doit le faire, j'ai envie de dire, on peut et on doit créer des héros. Parce que sinon, je pense qu'on ne s'en sortira pas en France. Et en plus, il y a une vraie demande. Je dis pas ça ex nihilo, c'est-à-dire qu'il y a une vraie demande, il y a un vrai désir d'incarner l'héroïsme en France, de voir apparaître des héros en France. Et pour le moment, bah encore, je le répète, on n'a que des voix de garage avec des soi-disant virilistes d'Internet, des soi-disant faux nationalistes, des néo-convertis de ci, de ça, voilà. Bref, vous connaissez et vous savez qui diligente en permanence. Et voilà, c'est une propagande qui continue toujours par le mensonge, la perfidie, les manipulations, et puis la répression, et puis l'hystérie. Hein, je veux dire, quand on a vu Christine Angot ces derniers jours, je pense que on comprend quoi. On comprend qu'ils veulent, ils vont continuer à appuyer là-dessus et qu'ils lâcheront pas. Voilà pourquoi. Je vais arriver à ma conclusion. Voilà pourquoi Michel Houellebecq, que j'aime bien, a parlé de révolte des élites et pas de révolte du peuple. Puisqu'en fait, nous avons assisté, dans ce que je vous ai décrit là succinctement ces dernières décennies, nous avons assisté à une révolte des élites contre le peuple et contre la démocratie, et pas l'inverse, alors qu'ils sont en train de nous vendre l'inverse. Et c'est parce qu'ils sont dans cette dynamique, et ça va continuer, qu'on en ait bien conscience, de diabolisation, des récupérations de ce qu'ils appellent, eux, le populisme, et de ce qui est, en fait, tout ce qui est hors, encore une fois, je vais le dire, des principes du judaïsme politique, puisque quand on va au bout du bout, c'est ça. Voilà, vision totalement antidémocratique, hein, je vous rappelle pas ce qui s'est passé avec le traité de Lisbonne, je vous rappelle pas qu'il y a des fraudes à toutes les élections, etc., etc. Donc, en gros, voilà, tout ce qui est en dehors du judaïsme politique sera balisé, encadré, et bafoué, voire certainement plus. Et là, on rejoint effectivement les condamnations qui tombent sur Alain Soral. Alors, dans une prochaine conférence, ou peut-être dans les questions-réponses, je vous expliquerai pourquoi, à mon sens, et j'ai travaillé là-dessus, pourquoi le judaïsme est la matrice, je pense, anti-sens ou anti-praxis, comme je l'ai défini au début de ma conférence. Alain, je vous passe la parole, président.